Donc, nous sommes de retour pour la suite de notre série Aime tes ennemis, où on parle justement des relations interpersonnelles, que ce soit avec des membres de notre famille, notre conjoint, nos enfants, nos parents, que ce soit avec des collègues de travail, nos voisins, peu importe, amis, ou comme on l'a mentionné une dernière semaine, un mot, une situation peut faire basculer que tu sois ami ou une connaissance avec quelqu'un à ce que cette personne-là devienne un ennemi. Le texte de base qu'on a pris se trouve dans Matthieu 5, les versets, à côté du verset 43 jusqu'à 48, ça dit: Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent, qui vous persécutent, afin d'être les fils de votre Père céleste. En effet, il fait lever le soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense mériterez-vous? Les collecteurs d'impôts n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les membres des prochains, des autres peuples n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Aime tes ennemis. C'est d'aller plus loin que de juste regarder la photo de quelqu'un, juste regarder quelqu'un de loin, de dire, ah, ok, c'est correct, cette personne-là, je veux pas être en contact avec. C'est d'être capable d'aller au-delà des offenses, comme on l'a vu la semaine dernière. On a parlé des paroles. Comment est-ce qu'une parole, un mot peut faire toute une différence, peut nous blesser profondément pour des années, peut même faire basculer notre vie. Aujourd'hui, on va parler d'un aspect également qui, souvent, on regarde, c'est quelque chose, encore une fois, qu'on peut mettre sur la vie des gens, mais ça nous touche moins, c'est moins nous. On va parler du jugement. Dans Matthieu 7, les versets 1 à 5, Jésus va nous dire « Ne jugez pas afin de ne pas être jugé, car on vous jugera de la même manière que vous aurez jugé, et on utilisera pour vous la mesure dont vous vous serez servi. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil? » Ou comment peux-tu dire à ton frère, « Laisse-moi enlever la paille de ton œil alors que toi, tu as une poutre dans le tien? » Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil et alors tu verras clair pour retirer la paille de l'œil de ton frère. Wow! Jésus nous dit, c'est facile de regarder aux autres, c'est facile de regarder à qu'est-ce que l'autre fait pas, qui me plaît pas, ou que pour moi, ça fait un non-sens, que c'est un scandale, que c'est épouvantable cette personne-là. Et encore une fois, si on ramène ça à notre vie de quotidien, que ce soit que mon enfant a fait quelque chose d'épouvantable à mes yeux, que mon conjoint a fait quelque chose qui est inconcevable, moi ça me tape sur les nerfs, que ce soit mon patron, que ce soit un collègue de travail, que ce soit un ami, un voisin, peu importe, il y a toute cette situation-là où on se retrouve à juger. Et la semaine dernière, on a parlé des paroles. Comment est-ce que, justement, une parole peut amener une offense et cette offense-là peut amener l'amertume et l'amertume à porter du fruit, à contagier d'autres personnes avec juste un mot. Le jugement, souvent, c'est même pas une parole. Ça va se passer à l'intérieur de nous, c'est une réflexion. Des fois, on va le partager à quelqu'un, notre jugement par rapport à telle personne ou telle situation. Mais souvent, ça va se passer plus dans le non-dit. Tu sais, des fois, quand on regarde quelqu'un, on fait comme... Enfin, ça, c'est mon interprétation du jugement. Je ne sais pas pour la vôtre. Dommage, je ne vous vois pas. Mais bon, ça, c'est la mienne. Et vous pouvez m'envoyer vos visages de jugement aussi, si vous voulez, en photo. Je vais les regarder attentivement. Mais sérieusement, à cette idée-là où ici, Jésus nous dit que... En fait, c'est ça, c'est fou. Il nous dit, écoute, tu... T'es prêt à enlever la paille, inquiétez-vous pas ici, je ne tiens pas une paille de plastique, aucun animal n'a été maltraité, mais c'est une paille de bambou, sérieusement. Donc, juste important pour les besoins de la cause. Il dit, pourquoi tu veux enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère? Ce petit bout-là, quand toi, t'as une poutre dans ton œil et tu t'es pas capable de voir comme il faut l'autre personne parce que t'as une poutre qui te cache, mais t'es même pas capable de voir la poutre dans ton œil. Et t'es capable de voir le petit pépin dans la vie de l'autre personne. Et souvent, c'est comme ça quand on juge. Souvent, c'est on va aller chercher le petit élément, la petite chose qui fait pas notre bonheur, fait pas notre affaire. Dans Matthieu 6, les versets 22 à 23, Jésus va dire, « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien ces ténèbres seront grandes? » C'est fou! Encore une fois, cette idée-là de l'œil. Mais ici, Jésus va dire, « L'œil est la lampe du corps. » L'œil, c'est qu'est-ce qu'on voit et qu'est-ce qu'on perçoit. Et avec ce que je perçois justement, si je vois le mal dans toutes les personnes autour de moi, si je vois tous les éléments négatifs ou tous les éléments qui font pas mon affaire, ou si je regarde juste pour « Ah, lui ici, elle, ça », tous les trucs qui font pas mon bonheur, mais ça dit que ton œil, si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Puis si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien ces ténèbres seront grandes? Wow! C'est fou. Qu'est-ce que tu fais avec ton œil? Comment ton regard est porté sur les autres, sur les situations, sur les personnes autour de toi, de près ou de loin? Comment tu juges les autres? Et souvent, cette idée-là de jugement, on n'aime pas. Il n'y a personne qui aime être jugé. Et des fois même, il y a vous avez déjà entendu parler de ça, le syndrome joueur de football, hein, où nous, on est, il y a un joueur qui est sur le banc, on est le joueur qui est sur le banc, puis tous les autres sont en train de faire le caucus pour dire, ouais, voici d'établir le jeu qu'ils vont faire. Puis le joueur qui est sur le banc regarde les joueurs qui sont en train de faire le caucus, puis il fait comme, ah, OK, présentement, ils sont en train de parler de moi. Et il y a cette dualité-là où, justement, des fois, le jugement, on n'est pas nécessairement jugé, mais on pense qu'on est jugé. Et de l'autre côté, facilement, on peut juger les autres. Et c'est toujours correct de juger les autres, selon notre point de vue. Jésus a dit, faites attention par contre, parce que la mesure que vous allez prendre pour juger les autres, les gens vont prendre la même mesure. Si cette mesure-là que tu prends pour juger les gens, bien ça se pourrait qu'en retour, parce que qu'est-ce que tu sèmes, tu vas finir par le récolter. Fait que si tu sèmes cette mesure-là, tu juges les gens selon cette règle-là, bien il y a quelqu'un un jour qui va prendre la même règle et qui va venir et va dire « je vais te juger selon cette même règle-là ». Et c'est pour ça que Jésus dit « fais attention, tu peux, si tu veux juger, juge ». Mais un jour, quelqu'un va te juger de la même façon que tu as jugé quelqu'un d'autre. Et Jésus va dire dans Jean « ne jugez pas selon l'apparence. » Et on le voit dans Samuel, lorsque le prophète Samuel était envoyé par Dieu pour aller choisir le prochain roi, qui est en fait David. Et Dieu va dire à Samuel, il dit, « Moi, je ne juge pas, je ne regarde pas à l'apparence, je regarde au cœur. » Et souvent, c'est ce qu'on va faire. Souvent, quand on va juger les gens ou les situations, les personnes, c'est selon justement l'apparence qu'on en a, selon ce que notre perspective, notre façon de voir les choses. Charles Swindoll a dit, « Nous ne sommes pas omniscients, donc notre jugement ne compte pas tous les faits. Nous ne sommes pas objectifs, alors notre jugement est teinté par nos intérêts personnels. Nous ne sommes pas parfaits, donc notre jugement est hypocrite. Nous ne sommes pas Dieu, alors notre jugement n'a pas de juridiction. » Et c'est complètement ça. Et c'est facile d'être un gérant d'estrade. Moi, ça fait rire là, présentement, toutes les fans du Canadien à la maison, c'est comme, ah, la saison est finie. Elle aurait été finie. De toute façon, ils ne faisaient pas les séries. Fait que dites-vous que finalement, 2020, c'est pas si pire que ça pour le Canadien de Montréal. Ils vont se reprendre l'année prochaine. En tout cas, on verra. Mais bon. Mais ça me fait toujours rire un peu les lignes ouvertes après les épisodes du Canadien ou les émissions à la télévision où on revient sur la partie. Puis là, on juge chacun des jeux qui ont été faits, chacun les décisions du coach. Celui qui a manqué le but, le gardien qui a pas arrêté la rondelle, qui aurait dû arrêter. Et c'est toujours facile quand t'es assis dans ton salon de juger les autres et de prendre des décisions pour les personnes. C'est souvent facile aussi quand on voit des gens qui ont pris une décision qui fait pas notre affaire et puis là, on peut les juger facilement sur « Ah ben, il a pris une mauvaise décision dans sa vie, il a telle chose. » Mais quand est-ce qu'on s'est mis à la place de cette personne-là pour voir ben pourquoi est-ce que cette personne-là a pris cette décision-là? Est-ce que ça aurait pu être différent? Peut-être. Mais il y a une raison derrière ça. Et puis, c'est pas tout le temps une bonne raison, mais d'essayer de comprendre. Dans Luc 6, les versets 36 à 40, ça dit, « Soyez donc pleins de compassion, tout comme votre Père est plein de compassion. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et on vous donnera. On versera dans le pan de votre vêtement une bonne mesure tassée, secouée, qui déborde, car on utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous vous serez servis. » Il leur dit aussi cette parabole, « Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tombera-t-il pas tous les deux dans un fossé? Le disciple n'est pas supérieur à son maître, mais tout disciple bien formé sera comme son maître. » Ici, Jésus revient sur cette corrélation de donner d'ici. C'est ce que tu vas donner et on vous donnera. Mais il dit, pardonne et tu seras pardonné. Mais si tu juges, tu vas être jugé également. Et il y a cette dimension-là intéressante que Jésus revient avec cette idée-là de l'œil. Jésus va dire, un aveugle peut-il conduire un aveugle? Mais dans notre conception, nous, souvent, c'est on n'est pas aveugle. Non, on n'est pas aveugle. C'est les autres qui sont aveugles. C'est les gens qui ne pensent pas comme nous. C'est les gens qui prennent les mauvaises décisions. C'est telle personne dans le gouvernement, c'est telle-ci. Et toutes ces personnes-là, c'est des aveugles. Mais nous, on voit clair. Et si on ramène ça au temps de Jésus, c'est un peu ce qui se passait. Les scribes, les pharisiens, les hommes religieux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils déposaient des fardeaux sur la vie des gens parce que qu'est-ce qu'ils faisaient, eux? Regardaient jamais à leur propre vie. Au contraire, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils regardaient tout ce qu'un et l'autre ne faisaient pas de pas correct. Et là, allaient reprendre l'autre et dire « Ah, moi! » Et se vanter de ne pas être comme un tel ou comme une telle parce que moi, je suis bien meilleur. Mais Jésus dit, c'est des aveugles qui conduisent des aveugles. Mais quand on se retrouve dans le jugement, ça veut dire qu'on devient aveugle. Et si on juge quelqu'un et que cette personne-là nous juge, on est des aveugles qui conduisent des aveugles. Puis ça veut dire, ben, ne tomberont-ils pas tous les deux dans un fossé? Alors quand on juge, on devient aveugle. Parce que le problème, c'est que quand on juge, qu'est-ce qu'on utilise? On utilise nos lunettes. On prend nos propres lunettes. Et qu'est-ce qui se passe avec nos propres lunettes? Ben, ça nous donne notre vision à nous. Quand si je prends les lunettes de quelqu'un d'autre, je ne verrai pas je verrai pas de la même façon. Peut-être que je vais voir embrouillé, je ne verrai pas de la bonne façon parce que ce n'est pas mes lunettes. Mais souvent, quand on juge, c'est ça qu'on fait, c'est qu'on met nos lunettes à nous, avec nos conceptions, avec nos convictions, avec nos valeurs, avec notre façon, notre philosophie de penser, avec notre bagage qu'on a reçu d'éducation, comment on devrait penser et agir dans cette situation-là. Et là, on juge. Et même des fois, on pense pas nécessairement qu'un jour, cette situation-là peut m'arriver, puis si ça m'arrivait, ben moi, je n'agirais pas de cette façon-là. Et souvent, le problème, c'est justement, notre vision est faussée parce qu'on utilise nos lunettes. Et le problème est que ce qu'on devrait utiliser, c'est un miroir. On devrait prendre un miroir pour se regarder. C'est ce que Jésus dit. Et en fait, le meilleur exemple, c'est l'histoire de la femme adultère. Cette femme-là qui avait commis un crime. Qui était passible de lapidation pour les chefs religieux. Et tous les chefs religieux sont là, Jésus est autour aussi, et ils ont toute une roche prête à lapider cette femme-là, et avec un sentiment de... On a raison, un sentiment de fierté, un sentiment de vérité, de dire, nous, on sait comment ça fonctionne. Toi, t'es une pas bonne. Et on va te lapider, tu vas mourir, ben on va en avoir terminé, là. Et à ce moment-là, les scribes, les pharisiens, tout ce qu'ils font, c'est regarder avec leurs lunettes. Ils voient avec leur idée, leur conception, mais ils ne regardent jamais à eux, ne regardent pas avec un miroir. Et Jésus va seulement poser une question. Il va dire, OK, que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Et c'est là où le miroir est arrivé. Jésus n'est pas arrivé avec ses lunettes. Puis moi, je vais vous juger, les scribes, les pharisiens, parce que moi, je sais ce qu'il y a dans vos vies, puis vous êtes une race de scie, puis vous êtes... Non, il est arrivé, puis il a juste mis un miroir, puis il a dit, regardez-vous dans le miroir. Est-ce que vous n'avez jamais péché? Ben alors, pourquoi est-ce que vous allez lapider cette personne-là? Parce que en fait, si on va avec votre principe, vous avez des péchés dans vos vies, ben elle aussi a le droit de vous lapider. Et c'est souvent, c'est ce qu'on fait. Qu'on le veuille ou non, malheureusement, on veut pas. Quand on lit la Bible, je connais pas personne qui dit « Ah oui, je me reconnais, je suis un pharisien, je suis un scribe, je suis un légaliste, je suis un religieux. » Mais si on regarde honnêtement, si on sonde nos vies, souvent, on devient un scribe, on devient un pharisien. Et malheureusement, on est aveugle et on juge rapidement. Warren Wiersbe dit, « Nous pouvons examiner les actions et attitudes des gens, mais nous ne pouvons pas juger leur motivation, car seulement Dieu voit dans les cœurs. Il faut se rappeler que les gens peuvent aussi faire de bonnes actions avec de mauvaises motivations. » C'est exactement ça. Et souvent, quand on juge, on ne connaît pas les intentions, on ne connaît pas la réflexion, on ne voit pas dans les cœurs les gens, on juge sur les faits, sur ce qu'on voit, sur ce qui ne fait pas notre affaire, on dit « c'est ça qui s'est passé, c'est un ci, c'est un ça ». Là, des fois, on écoute les nouvelles, on voit juste un bride, une photo sur un journal de quelqu'un qui a commis telle chose, puis tout de suite, on va porter un jugement. Mais rarement, on va s'arrêter pour réaliser qu'une chose que je ne peux pas faire, une chose que je n'ai pas le droit de faire, mais que malheureusement, je pense qu'on fait trop souvent, c'est qu'on juge les motivations des gens. On va dans le fond de leur cœur, puis on leur dit ce qu'ils ont pensé, quand on n'a aucune espèce d'idée vraiment ce qui a conduit là. Malheureusement. Et à ce moment-là, c'est là où on devient aveugle. C'est là où on devient un chef religieux de l'époque de Jésus. Écoutez bien, l'apôtre Paul, dans Romains 14, les versets 1 à 5, dit « Accueillez celui qui est faible dans la foi sans discuter ses opinions. L'un a la conviction de pouvoir manger de tout, l'autre qui est faible dans la foi ne mange que des légumes. Que celui qui mange de tout ne méprise pas celui qui ne le fait pas, et que celui qui mange pas de tout ne juge pas celui qui l'a fait, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu pour juger le serviteur d'un autre? Qu'il tienne bon ou qu'il tombe, cela regarde son Seigneur. Mais il tiendra bon, car Dieu a le pouvoir de l'affermer. L'un fait une différence entre les jours, un autre estime tous égaux, que chacun ait dans son esprit une pleine conviction. » L'apôtre Paul nous encourage à accueillir celui qui est faible. Et souvent, c'est ça qu'on fait. C'est qu'on pense que nous, on a acquis, des fois, en tant que croyant, on a acquis la connaissance. On sait comment ça doit fonctionner. Mais malheureusement, la vérité, c'est que oui, on peut avoir avancé dans notre vie. La vraie maturité, c'est pas de démontrer tout notre savoir et de juger les autres et de condamner les personnes autour de nous. Ça, c'est pas de la maturité. Ce qu'on a de besoin, c'est au contraire de réaliser que, écoute, Paul a dit, mais qu'il tienne bon ou qu'il tombe, ça ne tient pas de toi. Et c'est pas à toi de juger s'il est tombé, si Dieu ne le relèvera pas. Au contraire. Et l'apôtre Paul nous dit, accueille celui qui est faible. Discute pas des opinions et accompagne-le, parce que vous et moi, on n'est pas rendus au même endroit dans notre vie, dans notre cheminement avec Dieu, dans notre foi. On n'est pas rendu exactement au même niveau dans notre maturité spirituelle et notre maturité en tant que personne. Mais ce qu'on a le devoir de faire au lieu de juger, c'est d'accompagner. Et malheureusement, trop souvent, ce n'est pas ce qu'on fait. Dans notre vie de tous les jours, que ce soit avec les gens autour de nous, même les gens qu'on aime, c'est facile de juger, c'est facile de condamner, c'est facile de mettre un blâme, c'est facile de faire des reproches, c'est facile de juste porter un jugement. Mais c'est plus difficile d'accompagner, malgré le fait que ça vient me chercher. Ça, j'aurais pas fait ça. J'aurais pas pensé comme ça. J'aurais pas dit ça. J'aurais pas fait ça. J'aurais mieux fait. Mais c'est de dire, je suis là pour t'accompagner. Plus loin dans Romains 14, les versets 10 à 13, ça dit, mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Nous comparaîtrons tous, en effet, devant le tribunal de Christ, car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, chacun pliera le genou devant moi et toute langue rendra gloire à Dieu. Ainsi, donc, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ne nous jugeons donc pas les uns les autres, mais veillons plutôt à ne pas placer d'obstacles ou de pièges devant votre frère. L'apôtre Paul va plus loin dans cette idée-là, justement, d'aimer tes ennemis, parce que justement, l'ennemi, souvent, ça peut être cette personne-là qu'on sent qui nous a jugé ou qui nous a littéralement jugé. Et là, on va se mettre à juger en retour cette personne-là. Mais ici, l'apôtre Paul dit, un jour, on va tous devenir devant Dieu et chacun va avoir à rendre compte pour lui-même. Et Dieu va juger les cœurs et les motivations, ce que je ne suis pas capable et en mesure de faire. Je n'ai pas cette capacité-là. Mais au contraire, l'apôtre Paul nous dit, au lieu de juger, veille-toi, arrête de regarder à ce que l'autre a fait, a pas fait, il aurait dû faire, qui est pas correct, qui est ici. Mais regarde à toi, est-ce que dans ta vie, il n'y a pas une action, il n'y a pas quelque chose que tu fais qui est un obstacle à cette personne-là pour l'avancement de sa vie? Et des fois, l'obstacle pour l'avancement de cette personne-là, c'est moi, par mon jugement, par mes reproches, par ce que je mets, que je pense que moi, voici ce que j'ai acquis de meilleur que toi. Alors, qu'est-ce que je mets devant les autres? Bob Goff a dit, « La plupart des gens ont besoin d'amour et d'acceptation bien plus qu'ils ont besoin de conseils. » Les gens ont plus besoin de mon amour, de les accompagner là où ils sont pour les amener justement à la maturité. Et si je suis mature, si je suis vraiment mature dans la foi, arrêtez de regarder comme les scribes, les pharisiens, au point, virgule, au détail, à telle affaire qu'il n'a pas fait mon affaire, à telle affaire que je pense que lui a pensé que si, que ça. Non, je vais l'accompagner dans l'amour, pour justement l'amener à où il devrait être. Puis je suis pas là pour y donner 50 conseils pour lui dire « voici ce que je fais mieux, toi », mais juste lui offrir l'amour et l'acceptation. Comme l'apôtre Paul a dit « accueillir les faibles ». Dans Romains 14, 19, ça dit « ainsi donc, recherchons ce qui contribue à entretenir la paix et à nous faire grandir mutuellement dans la foi ». Recherchons ce qui contribue à la paix et nous fait grandir dans la foi mutuellement. Pas ma foi à moi, mais mutuellement. Qu'est-ce que je peux faire, moi? L'apôtre Paul dit, regarde pas ce que les autres font pas. Regarde à ce que toi, tu peux faire. Et comment toi, tu contribues, pas juste à avoir ta propre paix, mais comment est-ce que tu contribues à la paix commune de tous autour de toi, dans ton foyer, dans ta famille, dans ton lieu de travail, dans ton voisinage, dans l'église? Comment tu contribues à la paix? Comment est-ce que je contribue à la paix pour qu'on grandisse mutuellement dans la foi? Éphésiens 4, les versets 15 à 16, ça dit, « Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête Christ. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. » Si l'apôtre Paul dit t'es pas seul en toi-même et que si tu penses que tu as été meilleur qu'un autre, mais en fait, tu peux pas faire avancer le reste du corps. Mais en toi-même, c'est cette idée-là de dire si tu veux contribuer au bien, si tu veux continuer de grandir, qu'il y ait l'accroissement du corps, ça dit bien, il faut qu'on s'édifie lui-même les uns les autres dans l'amour et que tu sois capable de dire la vérité dans l'amour, de parler avec amour. Et pas simplement arriver de juger, de faire des reproches, de faire des silences, des regards. Non. Je veux te suggérer ce matin le rythme du non-jugement. Qu'est-ce qui pourrait m'aider à ne pas juger les autres? Comment est-ce que il y a ce cycle-là, cette roue-là? Mais premièrement, s'arrêter. Avant de juger quelqu'un, juste arrête-toi. Deuxièmement, écoute ce qu'on fait rarement. Écoute la personne. Écoute son cœur. Écoute ce qu'elle a à dire. Regarde. Tente de te mettre à la place de la personne. Dire, OK, il est arrivé ça. Bon, si ça m'était arrivé, comment j'aurais réagi? Là, ça n'arrive pas, c'est facile de juger. Mais si je suis à la place de la personne, comment j'aurais réagi, moi? Et compte tenu des circonstances qui sont dans sa vie présentement. Ensuite de ça, évalue les possibilités et tente de comprendre. C'est quoi les possibilités qui s'offrent à cette personne-là? OK, elle a pris cette décision-là, elle a dit ci, elle a dit ça, mais qu'est-ce qui aurait été l'autre possibilité? Et d'essayer de comprendre pourquoi que c'est cette possibilité-là, c'est l'action qu'elle a posée, le geste, la parole qu'elle a dite. Et finalement, avoir de la compassion et aimer. Malgré que tu n'es pas d'accord, malgré que ça serait facile de juger, de dire « je vais avoir de la compassion pour toi et je vais t'aimer, malgré la situation, je vais t'accompagner dans ça. » Encore une fois, Bob Goff a dit « Soyez patients les uns envers les autres. Nous tentons tous de façon différente de trouver le comment des mêmes défis. » Et c'est là le truc. On tente tous de façon différente de trouver des façons pour régler nos problèmes, les défis, de faire face à les situations dans nos vies. Et on a besoin d'être patient, d'être compatissant envers les gens autour de nous, de trouver la compassion autour de nous pour les gens qui sont là, au lieu de les juger. Aujourd'hui, en terminant, c'est la question que je pose, comment est-ce que tu penses à des gens à qui tu as pu porter un jugement dans ta vie, et que peut-être maintenant tu juges même. Comment est-ce que tu pourrais changer cette attitude-là, ce comportement-là? D'adopter une approche d'accueil, d'écoute, de compréhension, de compassion et d'amour. Ce matin, j'aimerais même te dire aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas eu dans l'histoire un des moments où c'est plus facile de juger l'Église. Parce que physiquement, l'Église ne peut pas se réunir. Et là, physiquement, mais chacun d'entre nous, on est chez soi. Et là, physiquement, bien, qu'est-ce qu'on fait? On peut regarder à 50, 100, 1000 églises sur Internet, comme on veut. Et là, il n'y a jamais eu dans l'histoire un moment où c'est plus facile de juger l'Église. Voici ce que l'Église fait, voici ce qu'elle fait pas, voici ce que, et de comparer l'autre. Et souvent, le jugement vient avec cette tension-là de comparaison. Et souvent, quand on juge, comme ça, c'est un peu comme les émissions d'après-match du Canadien. C'est facile d'arriver à juger les motivations des gens. Et ce que je nous encourage à faire, c'est non, de ne pas tomber dans ça. Et au contraire, d'être capable de réaliser, moi, ma partie à moi, c'est quoi? Comment est-ce que moi, je contribue à la paix, l'harmonie et à tout mettre les pièces ensemble? De continuer d'être là pour, on a mentionné à chaque semaine, est-ce que tu es en contact avec quelqu'un à l'église? Est-ce que tu as pris des nouvelles de quelqu'un? Parce que c'est notre responsabilité de tous et chacun de participer à un groupe, de peu importe la façon dont tu le fais. Et de réaliser qu'une fois que tout ça va être terminé, de réaliser, bien, hey, c'est quoi l'importance de l'Église? Et c'est quelle est mon Église? Et pourquoi? Et de réaliser le fondement de tout ça. Et aujourd'hui, je veux remercier tous les artisans, tous les gens qui continuent, semaine après semaine, à animer, d'être responsables des groupes éléments. Je voudrais remercier toutes les personnes qui sont là semaine après semaine, les gens des équipes de louange qui sont capables de continuer à faire la louange dans leur salon avec les moyens qu'ils ont. Merci énormément. Je veux remercier Samuel qui pourvoit que chaque dimanche, vous ayez un live comme ça. Michel, au niveau des capsules de la semaine, Juliette, derrière toute la caméra, Priscilla pour tout le montage et toute la planification de la louange. Il y a tellement de monde, et Cathy, qui continue malgré ça de faire les groupes, mais de faire que Flocon d'Espoir puisse continuer. Les bénévoles qui ont dit hey, « moi, je vais être prêt à plier du linge ». Il y a tellement de gens qui font tellement de choses présentement, Mosaïque, et je veux vous remercier. Et je pense qu'on peut être fiers de ce que nous sommes. Et qu'on continue d'être fiers de ce que nous sommes. On va prier ce matin. Seigneur, je veux te remercier pour ce que tu fais dans nos vies. Mais également, Seigneur, je veux te prier que chacun d'entre nous, qu'on le veuille ou non, on juge. On juge, Seigneur, on tombe dans le jugement. Et on a besoin de ton esprit pour nous aider à... Seigneur, activer un cycle de non-jugement, un cycle d'arrêt, d'accueil, d'écoute, de compréhension, Seigneur, un cycle de compassion et d'amour pour aider à contribuer à la paix et à ce qu'on grandisse mutuellement dans nos foyers, dans nos milieux de travail, dans notre voisinage, dans nos amitiés et également dans l'Église, Seigneur. Pour ta seule gloire, parce que toi, Seigneur, tu aurais pu nous juger 100 000 à l'heure chacun d'entre nous. Mais tu as choisi de ne pas nous juger. Tu n'as pas jugé nos apparences, mais tu es venu aimer notre cœur, notre personne qui nous étions. Et Seigneur, c'est la maturité, c'est d'arriver à cette stature parfaite-là, d'être capable, comme toi, au lieu de juger, d'aimer et d'accompagner, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Dans quelques instants, c'est moi Junior pour les enfants. On se retrouve cette semaine pour les capsules, lundi à jeudi. Et vendredi, on a une autre personne pour vous qui va être en discussion. Et un petit spécial à partir des prochaines semaines également, le samedi, on va avoir une capsule supplémentaire. On veut vous présenter une personne de l'équipe de Mosaïque qui va être là pour nous parler un peu, nous donner des nouvelles de ce qui se passe dans sa vie présentement dans le confinement. Ça, c'est à partir de samedi pour les quatre prochains samedis. Et dimanche prochain, la fête des mères, soyez là pour notre spécial de la fête des mères. D'ici là, passez un très beau dimanche. On vous aime, on a hâte de vous voir en vrai.